Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Nous allons ouvrir nos Bibles pour nous baser sur elles afin que la prédication puisse être fondée sur la parole de Dieu. Nous aurons trois textes aujourd'hui. Le premier sera dans Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 2. Le deuxième sera dans Jérémie, donc on sera dans le Nouveau Testament, ensuite dans Jérémie, dans l'Ancien Testament, et nous reviendrons ensuite dans Hébreux. Comme ça, vous savez déjà, vous allez naviguer dans votre Bible. Et je laisse Pierre-Alain venir nous faire les lectures en le remerciant déjà.
Alors, la première lecture sera dans 1 Timothée 2, 5. « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » La seconde lecture sera dans Jérémie, chapitre 31. Et là, on lira les versets 31 à 34. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel !» Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et le dernier texte se trouve dans Hébreux 7, chapitre 7, versets 18 à 22. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Jusqu'ici, dans la parole de Dieu.
Sans intermédiaire, impossible de rencontrer le Dieu parfaitement saint. Impossible. Nous avons besoin de Jésus-Christ pour ce culte, en fait. On a besoin de cet intermédiaire, ce médiateur pour ce culte. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour que notre compréhension soit éclairée. Donc besoin de Christ pour nous approcher de Dieu, besoin de l'Esprit pour comprendre Dieu. Alors nous continuons la série intitulée donc, de l'identité théologique de l'Église locale, hein, en Christ, humblement réformée baptiste. Nous nous rappelons que notre identité est en Christ, et non dans une pensée théologique particulière. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes réformés baptistes, mais parce que nous sommes en Christ. Ça, c'est quelque chose d'important, je vais toujours le répéter, parce que pour moi, c'est fondamental. La compréhension théologique, c'est vrai, par contre, va influencer notre manière de vivre, notre pèlerinage sur cette terre. Et nous voulons humblement vivre cela dans une direction théologique claire, que l'on veut aussi toujours être prêt à remettre en question face à la parole de Dieu. C'est la Bible, notre référence, notre autorité, et nous voulons aussi l'écouter, et s'il y a des choses à modifier, ben les modifier. La Bible n'est pas modifiable, mais notre façon de penser peut l'être. Donc nous désirons que Jésus-Christ soit appliqué à nos vies par l'œuvre du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le titre de la prédication est « En Christ, notre médiateur d'alliance ». Nous allons parler ensemble de trois sujets. Le premier, enfin c'est toujours le même, hein, mais le premier c'est Jésus le médiateur. Ensuite, nous parlerons de l'alliance et nous parlerons du signe de la nouvelle alliance. C'est les sujets qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc Jésus le médiateur. Mais avant de parler de médiateur, il est peut-être utile de comprendre que nous avons besoin d'un médiateur pour rencontrer le Dieu saint. Dieu est parfaitement juste. Il n'a aucun mal en lui. Et il ne peut pas entrer en contact avec le mal sans le détruire. Les récits de l'Ancien Testament nous permettent déjà de le saisir un peu. Peut-être vous vous souvenez de la situation avec Ouza. Vous connaissez Ouza ? C'est bon pour les petites questions bibliques. Hein ? Ouza, c'est un homme qui, en fait, avec son ami... Alors maintenant, ben voilà, j'ai même plus le nom de son ami. Voilà, vous pourrez poser cette question, vous gagneriez. Donc Ouza, avec son ami, conduisait le char où il y avait l'Arche de l'Alliance. Et à un moment donné, ça bougeait un peu, puis il a eu peur qu'elle tombe, puis il a essayé de la rattraper. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il est mort d'un coup. On ne touche pas à ce qui est sacré. On ne peut pas entrer en relation directe avec Dieu sans intermédiaire. Ouza est mort sur le champ. Et d'ailleurs, même dans le Nouveau Testament, cela est rappelé de manière imagée. Dans Hébreux 12, au verset 29, il est dit « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Dieu reste saint. Et si Dieu est un feu, on pourrait dire « Notre vie par le péché est comme une feuille de papier. » Et il est impossible pour une feuille de papier de s'approcher du feu sans être consumée. Il faut un moyen pour que ce papier puisse entrer en relation avec le feu, si vous voulez. Et ce moyen, c'est ce que la Bible appelle le médiateur. Le médiateur. Et dans l'Ancien Testament, aucun être humain, même aucun Israélite, ne pouvait entrer dans le lieu très saint autre que le grand prêtre. Un jour par année. Mais sinon, on ne pouvait pas entrer dans ce lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur pouvait le faire une fois par année, après de multiples sacrifices de purification pour entrer dans la présence de Dieu. Et le souverain sacrificateur dans le lieu très saint devenait ainsi l'intermédiaire, le médiateur entre Dieu et son peuple. Il devenait l'intermédiaire, le médiateur entre Dieu et le peuple. Et Jésus-Christ est venu accomplir le sacrifice parfait, étant lui-même le sacrificateur, médiateur parfait. Donc il est dit dans 1 Timothée 2,5, qu'on en a lu tout à l'heure, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. » Et la lettre aux Hébreux explique bien, en fait, le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et j'aimerais vous lire avec vous un extrait de ce qui est dit de Jésus à propos de la médiation. Alors, allez avec moi dans Hébreux, au chapitre 9, on était au chapitre 7 tout à l'heure dans la lecture. On va maintenant dans le chapitre 9 et nous lirons les versets 11 à 15. Donc, Hébreux 9, verset 11. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sacrifices de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant ? Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Il faut comprendre que aujourd'hui encore, nous avons besoin d'un médiateur. n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui encore, nous avons besoin d'un médiateur, car tous nous sommes contaminés par le péché. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et c'est personne d'autre. Jésus-Christ, personne d'autre comme médiateur. Jésus-Christ et c'est personne d'autre. C'est ni Marie, ni la louange, ni aucune autre action ascétique, comme nous l'avons lu dans 1 Timothée 2,5. Un seul médiateur, Jésus-Christ. Si Jésus est le médiateur, c'est justement vers lui qu'il faut se tourner lorsqu'on devient conscient de ses péchés, en fait. N'allez nulle part ailleurs pour trouver votre salut. C'est vers Jésus-Christ. C'est Jésus qui a payé le prix, qui peut pardonner à ceux qui viennent à lui. Et si tu ne l'as pas fait ou que ce n'est pas ton habitude, parce qu'en fait, celui qui croit, c'est une habitude d'aller vers Christ quand le péché est là dans sa vie. Je t'invite à prier Dieu, reconnaître tes fautes, vivant dans la repentance qui libère, demandant pardon et croyant que Jésus a payé à la croix, à ta place, qu'il a pris le jugement qui pesait sur toi et en lui obéissant par un témoignage public, par le baptême, signe d'obéissance, on verra après, c'est le signe de la nouvelle alliance, et de capitulation, lui donnant tous les droits sur toi. Jésus est notre médiateur. Encore aujourd'hui, on a besoin d'un médiateur. On a des fois l'impression, je peux aller vers Dieu là, tout hein, tranquille, je vais vers Dieu. Il est saint comme avant. Hein. J'ai besoin de Christ pour m'approcher de Dieu. Et Dieu te bénira. Il te libérera de l'esclavage du péché. Il purifiera ton âme, te donnera la joie de grandir dans une manière de vivre marquée par le bonheur de voir Christ en toi. C'est beau ça, quand on voit Christ en nous, c'est un bonheur. Et pouvoir ainsi s'approcher de Dieu et avoir une relation restaurée, réconciliée, intime, de manière à appeler Dieu papa, père. Hébreux 9, 15 disait, hein, on l'a lu tout à l'heure, « Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance. » Afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Une nouvelle alliance. Ce qui nous amène au deuxième point. Parce que Jésus est le médiateur dans le cadre d'une alliance. Et cette alliance traverse toute la Bible. C'est notre deuxième point, l'alliance de grâce. Cette alliance, en fait, était promise, préfigurée et typologique dans l'Ancien Testament, le temps de l'Ancienne Alliance. Cette alliance, ensuite, est manifestée et conclue par la venue de Jésus-Christ. C'est la nouvelle alliance, l'alliance de grâce, manifestée. Alors, une alliance, c'est quoi ? On peut se dire, une alliance, c'est quoi ? Ça me semble assez clair, mais je le répète, c'est un accord, un pacte, une union, un lien entre deux parties. C'est une alliance, hein. Une union, un pacte, un accord entre deux parties. Et ces deux parties, dans ce cas ici, c'est Dieu et son peuple. Dieu et son peuple. Et voici ce que dit le petit catéchisme baptiste pour jeunes enfants à la question 25, qui dit « Qu'est-ce qu'une alliance ?» Peut-être que vous avez la réponse. Hein. Alors les enfants, on n'en est encore pas à la question 25, c'est pour ça que ça ne vient pas tout de suite. Hein. Mais qu'est-ce qu'une alliance ? Eh bien, c'est un accord entre deux personnes. Ou plus, voilà, tout simplement. C'est un accord entre deux personnes ou plus. Alors, l'ancienne alliance est un pacte entre Dieu et son peuple au Sinaï du temps de Moïse. L'ancienne alliance est un pacte entre Dieu et son peuple au Sinaï au temps de Moïse. C'est par la loi du Sinaï que le peuple est lié à Dieu dans l'ancienne alliance. C'est par la loi du Sinaï que le peuple est lié à Dieu dans l'ancienne alliance et ce lien était conditionnel. Ce lien était conditionnel, hein, si vous obéissez. S'il y avait désobéissance, l'alliance était rompue. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, c'est par la loi du Sinaï que le peuple est lié à Dieu dans l'ancienne alliance. Ce lien était conditionnel. Et s'il y avait désobéissance, l'alliance était rompue. Et c'est ce qui est arrivé. La nouvelle alliance est un pacte entre Dieu et Jésus-Christ qui a un corps spirituel. Donc c'est un pacte entre Dieu et Jésus-Christ qui est un corps spirituel. C'est par l'œuvre de grâce de Jésus-Christ que le peuple est lié à Dieu dans la nouvelle alliance. Et ce lien est inconditionnel. C'est par l'œuvre de grâce de Jésus-Christ que le peuple est lié à Dieu dans la nouvelle alliance. Et ce lien est inconditionnel. Jésus a parfaitement obéi. Il a racheté chaque individu de son peuple. Le pacte ne sera jamais rompu. C'est la nouvelle alliance en Christ, justement. Voilà pourquoi il est dit dans Jean 1, 17, par exemple, hein, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » On commence à faire les liens, là, quand on a cette notion de l'alliance. Et Jésus a dit, et c'est aussi compréhensible dans ce cadre de l'alliance entre Dieu et Jésus, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. » Ou encore dans Jean 17, c'est quand il prie Dieu, hein, et il parle de lui-même ici, à Dieu, « Selon que tu lui as donné, donc donné à Jésus, que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Dans cette alliance qui a été faite et qui a été donnée à Christ. La nouvelle alliance était clairement annoncée. Hein, on a lu le texte de Jérémie 31, je vais vous le relire pour qu'on l'ait un peu en tête, hein, versets 31 à 34. Où il est dit « Voici les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que j'en conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle de l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, oracle de l'Éternel. Car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est en Christ que nous vivons ça. C'est la nouvelle alliance. Or, Dieu n'a pas changé depuis le début du monde. Mais sa révélation est progressive. Et ce qui a été vécu sous l'ancienne alliance montre déjà ce qu'il aime, ce dont il a horreur. Il y a des choses qu'il aime, des choses qu'il a horreur. Et il n'a pas changé avec ça, il ne changera jamais. Mais ce qui était une ombre de la réalité à venir s'est transformé en réalité par la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ, le médiateur de l'alliance de grâce annoncée, promise dans l'Ancien Testament et dont les réalités, ou la réalité est présentée dans le Nouveau Testament. Et le Saint-Esprit, par l'auteur de la lettre aux Hébreux, nous dit ceci, ce que je viens de vous dire avec ces mots. Si on revient dans Hébreux, on relit au chapitre 7 les versets 18 à 22 qu'on a entendu tout à l'heure. Ça va maintenant nous le rappeler, ça va faire écho. Verset 18. « En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et d'autre part, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela ne s'est pas fait sans serment. » Les autres, en effet, sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais lui, Jésus, l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur l'a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour l'éternité. » Jésus est devenu par cela le garant d'une alliance meilleure. Bon, vous allez me dire que dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas seulement l'alliance du Sinaï, mais aussi d'autres alliances. Vous avez raison. Et je vais vous montrer que dans toutes les alliances, nous voyons Christ. Les alliances de l'Ancien Testament sont comme des fenêtres qui nous permettent déjà de voir l'ombre de l'un ou l'autre aspect de l'alliance annoncée dès Genèse 3,15 avec la descendance de la femme. Dans Genèse 3,15, il est parlé de la descendance de la femme. Et la descendance de la femme, c'est Jésus-Christ, très clairement. Alors, j'aimerais vous démontrer que toutes les alliances de l'Ancien Testament sont liées à Jésus-Christ. Alors, comme la plupart des sujets dans cette série, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais vous donner déjà les directions pour chacune de ces alliances. Enfin, un survol. Donc Jésus et les alliances de l'Ancien Testament. La première alliance que nous trouvons dans la Bible est implicite. C'est l'alliance des œuvres qu'on trouve dans Genèse 2, 15 à 17 et dont il est aussi question dans Osée 6, 7. Cette alliance a été faite entre Dieu et Adam. Avant même la création d'Ève d'ailleurs. Hein, entre Dieu et Adam. Et cette alliance était conditionnelle. Si Adam désobéissait à la clause de l'alliance, il déclenchait la mort. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce que le Saint-Esprit, par Paul, nous dit dans Romains 5, 12. Hein. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais Jésus a parfaitement obéi à son Père. On peut dire qu'il a respecté l'alliance des œuvres. Jésus est le nouvel Adam qui entraîne ses descendants dans la vie, alors que le premier Adam entraînait ses descendants dans la mort. Donc Jésus a parfaitement obéi à son Père. On peut dire qu'il a respecté l'alliance des œuvres, l'obéissance parfaite. Jésus est le nouvel Adam qui entraîne ses descendants dans la vie. Ça, c'est pour la première. Donc, le lien, il est clair. Hein? Ensuite, la deuxième alliance est celle du temps de Noé, hein, dans Genèse 9, les versets 8 à 17. Dieu a fait une alliance avec tous les êtres vivants, hein, pas seulement avec Noé, avec tous les êtres vivants, et il donne un signe, l'arc-en-ciel. Lorsque vous voyez l'arc-en-ciel, en fait, cela vous rappelle que Dieu a fait une alliance avec tous les êtres vivants de toute la terre, en fait, qu'il ne serait plus jamais détruit par le déluge. Quand on voit l'arc-en-ciel, c'est ça qui est notre base, en fait. Hein. C'est que Dieu a fait alliance avec tous les êtres vivants, qu'il ne les détruira plus par le déluge. Et cette alliance-là est sans condition. Il n'y a pas si tu fais ceci ou si tu fais cela. Elle est sans condition. Et en fait, Jésus, grâce à cette alliance, a bénéficié du monde épargné par le jugement. Parce que sinon, le monde n'aurait pas été épargné par le jugement. Mais il était épargné. Donc Jésus a bénéficié du monde épargné par le jugement pour venir y vivre, accomplir sa mission de salut. Et l'arche de Noé était un symbole de Christ en qui nous trouvons le salut. Cette arche de Noé était le symbole de Christ en qui nous trouvons le salut. C'est en étant en Christ que nous pourrons faire face au jugement final dont le déluge était le prototype. La notion des eaux qui recouvrent, etc., c'est un symbole du jugement, en fait. Et en étant dans l'arche, on reste vivant, protégé, c'est le salut en Christ, symbole fort. Troisième alliance est celle avec Abraham, que nous trouvons dans Genèse 15, 1 à 21, par exemple. Dieu, dans cette alliance, promet une descendance à Abraham. Il lui promet une descendance et lui donne le signe de la circoncision. Ok ? C'est par naissance que l'on entre dans le peuple choisi. La naissance physique que l'on entre dans le peuple choisi et la circoncision en est le signe. Alors, on a eu l'étude de Galates ici dans l'Église il n'y a pas longtemps. Donc, on sait pertinemment que Jésus est la descendance annoncée à Abraham, selon Galates 3, 16. Jésus est la descendance annoncée par Dieu à Abraham dans Galates 3, 16. Et c'est aussi par sa naissance, c'est aussi par naissance que nous entrons dans le royaume de Dieu, la nouvelle naissance. Ce n'est pas par une naissance physique, mais par une naissance spirituelle. C'est aussi par naissance que nous entrons dans le royaume de Dieu, la nouvelle naissance. C'est Jésus qui le dit à Nicodème dans Jean 3, hein, que vous pouvez relire cette notion que c'est uniquement en naissant de nouveau. Il parle même d'eau et d'esprit, hein, on voit ce lien aussi avec le signe du baptême ici très clairement. Quatrième alliance est celle du mont Sinaï avec Moïse, on en a déjà un peu parlé, qui souvent est cette alliance qui est vue comme l'ancienne alliance. Quand on voit dans Hébreux, eh bien, c'est cette alliance-là dont il est question, tout en ayant l'éclairage des autres aussi. Dieu fait alliance avec un peuple qu'il a délivré de l'esclavage pour qu'il soit saint et son représentant sur la terre. Ça, c'était le but du peuple d'Israël, d'être saint et le représentant de Dieu sur cette terre. Et cette alliance est conditionnelle. Si tu obéis, je garde l'alliance. Si tu désobéis, tu te mets sous la malédiction. Et Dieu a donné un signe, et ce signe, c'est le sabbat. Donc, il avait déjà donné les 10 commandements, mais ensuite, il a donné aussi le sabbat, encore particulièrement, comme signe de cette alliance. Jésus est venu représenter parfaitement le Dieu saint sur terre. Vous vous rappelez, Israël, il devait représenter le peuple, il devait représenter la sainteté de Dieu sur terre. Jésus est venu le faire parfaitement. C'est lui l'Israël de Dieu qui a été à la fois le souverain sacrificateur parfait et le sacrifice parfait. Bon, là, en une phrase, je vous ai donné un enseignement de 2 semaines. Donc, Jésus est venu représenter parfaitement le Dieu saint sur terre. C'est lui, l'Israël de Dieu, qui a été à la fois le souverain sacrificateur parfait et le sacrifice parfait. Alors, ceux qui sont en lui, en fait, sont appelés un peuple de sacrificateurs. En fait, Jésus nous fait entrer dans le vrai repos et nous fait entrer à sa suite aussi, à être ces personnes qui transmettent la parole de Dieu. Cinquième alliance, et la dernière dans l'Ancien Testament, c'est celle de David, de Samuel 7, à qui Dieu promet une descendance qui règnera pour toujours. Et le signe ici de l'alliance, c'est la naissance d'un fils. Et en fait, Jésus est ce fils qui était promis à David et annoncé dans Ésaïe. Ésaïe 9.5, c'est extraordinaire ce texte, moi je l'aime tellement parce qu'il il a toute la christologie dans ce texte, en un seul verset. Et en passant, les témoins de Jéhovah ne l'ont pas modifié dans leur Bible, donc ça c'est un très bon passage à étudier avec eux pour se rendre compte que, écoutez ce qu'il est dit. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, c'est humain ça, hein? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Jésus est ce fils de David qui règne pour l'éternité. Jésus est ce fils de David qui règne pour l'éternité. Alors voilà les différentes fenêtres en fait des alliances dans l'Ancien Testament qui permettaient de voir quelques aspects, chacun nous donne quelques aspects de l'œuvre extraordinaire et complète de Jésus-Christ qui a versé son sang pour sceller la nouvelle alliance, cette alliance de grâce différente des alliances de l'Ancien Testament. Jésus est l'Adam parfait, la prospérité promise, le vrai fils, le roi messianique. Tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ, clairement. Et Jésus dit à ses disciples lors du dernier repas, dans Luc 22, 20, de même, lorsqu'il prit la coupe après le repas, il la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc, tous ceux qui sont en Christ vivent maintenant dans cette nouvelle alliance. C'est en Christ qu'on vit cela. Tous ceux qui sont en Christ vivent maintenant cette nouvelle alliance dont les clauses ont été accomplies par Jésus-Christ. C'est une alliance de grâce inconditionnelle. C'est en lui. Ce n'est pas moi qui fais une petite alliance avec Dieu. C'est en étant en Christ qui a fait cette alliance avec le Père que je suis dans cette... Vous comprenez ? C'est quelque chose d'assez extraordinaire, en fait. Tous ceux qui sont en Christ vivent maintenant dans cette nouvelle alliance dont les clauses ont été accomplies par Jésus-Christ. C'est une alliance de grâce qui est inconditionnelle. Jésus est le garant de la nouvelle alliance. Lui, notre médiateur souverain, sacrificateur, parfait, le sacrifice parfait, il a signé cette alliance par son propre sang. Donc celui qui est en Christ a une assurance extraordinaire. Parce qu'en fait, cette assurance repose sur Jésus-Christ qui est parfait. Il a tout accompli, il a reçu tout pouvoir et est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il le dit à ses disciples dans Matthieu 28. Alors, est-ce que nous devons encore suivre la loi pour être sauvés ? Même les 10 commandements du Sinaï ? Eh bien non, c'est Jésus-Christ notre assurance. C'est aucune obéissance qu'on pourrait avoir, d'ailleurs on n'arrive pas. C'est Jésus-Christ notre assurance. Or devons-nous pour autant laisser de côté vivre contre les 10 commandements, ou de manière qui n'est pas en accord ? Eh bien non. Parce qu'en fait, ces lois indiquent ce que Dieu aime. Et nous les trouvons déjà même avant le Sinaï. Ce sont même des lois qu'il a inscrites dans le cœur de l'homme. Nous avons vu, dans l'Ancien Testament, les alliances avaient des signes comme l'arc-en-ciel, la circoncision, le sabbat, le fils. Et la Nouvelle Alliance a aussi un signe. C'est notre troisième point, le signe de la nouvelle alliance. Alors souvent, on parle ici d'ordonnance, parce que c'est une chose que Jésus a ordonnée. Mais avant d'aller voir ce qu'il a ordonné, j'aimerais déjà vous dire que Jésus a vécu le baptême de Jean. Lui-même, il a vécu le baptême de Jean. Pourquoi ? Alors ça, c'est une question qu'on peut se poser parfois, donc je vais vous y répondre ici. Donc, il l'a vécu comme une identification à l'humanité. Et je vais vous lire ici une phrase ou deux de Tim Chester sur son livre excellent sur le baptême et la Sainte Cène, « La vérité rendue visible ». Il dit ceci. « Il s'agit d'une expression frappante de son intention, donc de Jésus en se faisant baptiser. Jésus est symboliquement englouti dans les eaux du jugement. Il exprime l'intention de subir le jugement que nous méritons. » Et Jésus, en sortant de l'eau, est reconnu comme étant le Fils bien-aimé. Hein, au moment où il sortit de l'eau, dans Marc 1, au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » C'est le nouvel Adam, Fils de Dieu. C'est le Fils d'Abraham, Fils de David. Ça vous rappelle des alliances ? Et Jésus, déjà avec ses disciples, donc avant qu'il parte, il baptisait déjà avec ses disciples. Dans Jean 4, 1 et 2, il est dit « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. » C'est quelque chose qui était déjà pratiqué. Et il est clairement dit ici que c'était des disciples qui étaient baptisés, donc des personnes qui avaient une capacité de s'attacher. Nous avons vu dans l'Ancien Testament que l'alliance avec Abraham était marquée par la circoncision qui soulignait l'importance de la génération jusqu'à la descendance, la majuscule, la descendance qui est Jésus-Christ. Jésus, dans Jean 3, parle au docteur de la loi Nicodème, qui savait qu'il fallait naître d'Abraham pour être dans le peuple choisi, pour être dans le peuple saint. Il savait ça, Nicodème. Et Jésus lui dit qu'il faut effectivement passer par une naissance pour faire partie du peuple de Dieu, pour entrer dans l'alliance et passer par l'eau du baptême. Et dans la nouvelle alliance, c'est une naissance spirituelle et non une naissance physique qui fait entrer dans le royaume de Dieu, qui fait entrer dans ce peuple, qui fait entrer dans l'alliance. C'est la naissance spirituelle et non une naissance physique qui fait une entrée. C'est en fait une nouveauté de la nouvelle alliance. Il n'est plus question d'une naissance physique, en lien avec la circoncision physique, mais fait partie de cette alliance, mais d'une naissance spirituelle qui est en lien avec le baptême. Voilà pourquoi nous ne baptisons pas les enfants de croyants, car nous n'entrons pas dans l'alliance par une naissance physique, mais par une naissance spirituelle. Et lors de la naissance spirituelle, il y a un premier cri de vie. Le premier cri de vie de la naissance spirituelle, c'est « Je me repens de mes péchés et je crois en Jésus-Christ. » Ou si je complète, « Je me repens Jésus-Christ, je me repens de mes péchés et je crois en Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Roi. » Ça n'existe pas. Certains disent « Il était mon Sauveur puis il est devenu mon Seigneur. » Ça n'existe pas. Il est Sauveur et Seigneur ou il n'est rien du tout. Jésus dit à ses disciples, juste avant de les quitter, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » C'est bon, c'est rentré là ?« Faites de toutes les nations des disciples, donc faire des disciples, et ensuite, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En fait, ce signe de baptême qui manifeste la naissance spirituelle ne se vit qu'une fois dans la vie. Celui qui manifeste la naissance spirituelle se baptise qu'une fois dans la vie. Si quelqu'un a été baptisé enfant, en fait, il n'a pas été baptisé pour manifester la naissance spirituelle. Clairement pas. Cette naissance spirituelle qui est l'entrée dans la nouvelle alliance. Alors comprenez-moi bien, et que nos chers frères dans la foi pédobaptiste le comprennent, nous croyons que les enfants des croyants, en fait, qui vivent leur foi de manière conséquente sont sous une bénédiction particulière. Oui, les enfants de croyants sont sous une bénédiction particulière. Nous croyons d'ailleurs que les enfants de croyants dans l'Église sont des personnes de qui nous avons une responsabilité particulière dans l'enseignement de la parole qui leur fait connaître Christ pour qu'ils puissent devenir ses disciples. Bien sûr. Mais qui donc alors peut être baptisé si on ne baptise pas les enfants ? La Bible dit simplement « celui qui croit ». Celui qui croit. Et croire, selon la parole, ce n'est pas uniquement adhérer à une façon de voir ou avoir un sentiment d'être proche ou imaginer être d'accord. C'est bien plus engageant et transformé. Celui qui croit, selon la Bible, celui qui croit est justifié. Il est en Christ et pardonné de ses péchés. Il reçoit une nouvelle nature. Il est adopté. Il ne vit plus pour lui-même. Il marche dans la lumière et est en communion avec Dieu et avec les autres croyants, etc. C'est ça, je crois, selon la Bible. Et tant d'autres choses qui manifestent qu'il est entré spirituellement dans la nouvelle alliance. Bien entendu, il n'y a pas de maturité dès le départ. Mais non. Mais toutes ces choses sont présentes en germe, comme lors de la fécondation. Dès la première cellule, l'ADN est là. Dès la première cellule, l'ADN est là et rien ne sera plus ajouté. Ce sera simplement développé jusqu'à la maturité. Tout est là. Le baptême représente dans la réalité physique de l'immersion dans l'eau et le fait de ressortir la mort et la résurrection aussi de Christ. Et ça, c'est Romains 6 qui nous le dit très bien. Romains 6, 3 et 4, où l'apôtre Paul dit ceci. « Ignorez-vous que nous tous avons été baptisés en Christ Jésus ? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » En fait, ce signe de la nouvelle alliance du baptême a une portée extraordinaire. Et prendre le temps de bien le comprendre est bénéfique, même des années après s'être fait baptiser. Nous arrivons à la conclusion de cette prédication intitulée « En Christ, notre médiateur d'alliance ». Alors, en réfléchissant à ce qui est vécu dans l'Ancien Testament, on a réfléchi un petit peu à ce qui se faisait dans l'Ancien Testament. Il fallait aller au temple, prendre des animaux, faire des sacrifices. Chaque fois qu'on était impur, il fallait se purifier. Enfin, vous avez un peu... Lisez le Lévitique, vous verrez, c'est assez instructif. Mais quelle joie et quel privilège d'être maintenant dans la nouvelle alliance, mes frères et sœurs. C'est quelque chose qui devrait nous dire, mais c'est extraordinaire. Parce que ce qui faisait l'Israël, ce n'était pas faux, ce n'était pas mauvais. Et nous avons toujours besoin d'un médiateur. Et Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Alors là, il y a une petite question pour savoir si vous avez une bonne théologie biblique, une bonne vue d'ensemble de la Bible, une bonne compréhension de l'Alliance. C'est une petite question. Vous êtes prêts ? Vous avez déjà entendu beaucoup de choses, mais maintenant c'est une petite question. Alors, les croyants de l'Ancien Testament, étaient-ils pardonnés et sauvés par les sacrifices d'animaux ? Ça, c'est la question. Et votre réponse va démontrer si vous avez compris la notion d'alliance. Donc, les croyants de l'Ancien Testament étaient-ils pardonnés et sauvés par le sacrifice d'animaux ? Ou sont-ils sauvés comme nous au travers du sacrifice de Jésus, leur sacrifice étant des préfigurations ? Moi, je dirige un peu la réponse, vous avez commencé à comprendre. Et la bonne réponse s'appuiera sur Hébreux 10, les versets 4 à 10. Puisque ce n'est pas moi qui dois vous donner la réponse, c'est la parole toujours, évidemment. Il est dit dans Hébreux 10, versets 4 à 10, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Bon, ça c'est direct ici. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Il existe des croyances chez les chrétiens que c'est le sang des animaux qui les purifiait de leurs péchés. Je pense que le texte d'Hébreux nous aide à comprendre que c'était une préfiguration. Cela signifie donc que Abraham, Moïse, Rahab, Ruth, David, Néhémie et tous les autres croyants de l'Ancien Testament sont sauvés par Jésus-Christ. Leur regard était tourné en avant vers le Messie. Vous vous rappelez, ça je vous ai déjà dit plusieurs fois, un Messie, c'est Christ oint. C'est tout le même mot, simplement dans une langue différente. Hein. Donc ils regardaient vers Christ, vers le Messie. Comme nous avons le regard tourné en arrière sur l'œuvre accomplie à la croix, on regarde en arrière pour voir l'œuvre accomplie à la croix qui nous purifie, et on regarde en même temps en avant sur l'œuvre qui sera totalement manifestée lorsque Jésus reviendra. Jésus est le seul médiateur et il n'y en a pas d'autre. Et nous croyons que la nouvelle alliance est vraiment nouvelle, que l'ancienne alliance, on pourrait dire, est engloutie en Christ. Il a accompli tout ça, engloutie en Christ. Notre identité est en Christ par naissance spirituelle, ce qui se verra par notre nouvelle nature qui aime les choses que Dieu aime. Alors ma prière est que chacun ici, nous connaissions Christ de telle manière que nous soyons façonnés et fascinés, que nous soyons attachés et émerveillés, que nous soyons unis et remplis d'un amour ardent pour lui, agissant dans la semaine qui vient de manière à manifester Christ autour de nous. Jésus est notre médiateur d'alliance. Et j'aimerais dire, je pense au nom de tous ceux ici qui aiment le Seigneur, à lui soit toute la gloire. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes ébahis face à ton œuvre extraordinaire. Adam a péché, il t'a rejeté. Et le jour même où tu le reprends de ce qu'il a vécu, tu annonces le descendant. Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que tu es un Dieu qui jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, n'a laissé tomber. Tu es celui qui vient même nous chercher. C'est toi qui as cherché Adam au moment où il a péché. C'est pas lui qui t'a cherché. Où es-tu ? Et j'aimerais te prier, Seigneur, que si ce matin, quelqu'un entend cette voix, « Où es-tu ?» qu'il puisse répondre et dire, « Seigneur, je suis là. J'ai peur. J'ai péché. J'ai besoin de me cacher. Je ne veux pas montrer tout ce que j'ai vécu. » Et j'aimerais te prier, Seigneur, que celui qui entend ce « Où es-tu ?» entende aussi, j'ai envoyé Jésus-Christ, qui est venu pour payer, ce médiateur qui nous permet de nous approcher de toi, le Dieu Saint. Oh, quelle grâce ! Éternel notre Dieu, même le fait que nous puissions nous adresser à toi, te parler, est quelque chose qui est extraordinaire. Et nous le faisons parce que tu nous habites par ton esprit, parce que Christ habite en nous, parce que Christ intercède pour nous. Parce que Christ est le sacrificateur parfait, il est le sacrifice parfait, il est l'Israël parfait, il est le descendant, il est le roi éternel. Oh, j'aimerais te prier, Seigneur, et comme je l'ai dit, c'est ma prière, que nous aimions Jésus-Christ d'une manière qui soit, qu'on dise qu'on est fou de l'aimer, tellement on l'aime. J'aimerais vraiment, Seigneur, te prier de nous donner cet amour qui nous dépasse et qui nous rassure. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.